Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. La parution au PUF, Presse universitaire de France, du troisième tome du Monde byzantin, sous la direction d'Angélique Ilaïou et de Cécile Morisson, nous offre le plaisir de recevoir Cécile Morisson dans notre studio de Canal Académie. Cécile Morisson est correspondante de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, byzantiniste éminente, spécialiste des monnaies byzantines et donc de l'histoire économique de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge. Nous allons revenir plus en détail sur son parcours, sa carrière, après lui avoir souhaité la bienvenue. Bonjour madame.
Bonjour, merci de m'accueillir à Canal Académie.
Nous avons de la chance de vous trouver en France car vos études et vos recherches vous font vivre en grande partie aux États-Unis puisque vous êtes depuis 1998 conseiller numismatique de Dumbarton Oaks à Washington. Vous avez suivi cette collection. Alors j'avoue que je suis très intriguée par cela. Expliquez-moi ce que c'est.
Alors Dumbarton Oaks est le nom d'une merveilleuse propriété de Georgetown dotée de 6 hectares de merveilleux jardins qui fut la propriété d'un couple de riches américains éclairés, Robert et Mildred Woodbliss, qui firent don de leur fortune et de cette propriété à l'université Harvard en 1940. Et depuis, cette fondation, donc placée sous la direction de Harvard, accueille des byzantinistes, aussi également des spécialistes d'histoire précolombienne et d'histoire des jardins, de sujets et d'intérêts des fondateurs. Elle est dotée d'une bibliothèque magnifique, récemment abritée dans des locaux agrandis, et c'est un des centres de recherche byzantins les plus importants au monde, avec Paris, Vienne et d'autres universités.
Et là, vous donnez des cours ou vous vous occupez de la collection ?
Je m'occupe de la collection, qui est l'une des plus importantes de monnaie byzantine du monde, à peu près 10 000 exemplaires, que je continue à enrichir. Je donne des séminaires, j'organise une école d'été sur la numismatique et la sigillographie byzantine tous les 2 ans, et je suis d'une manière générale à la disposition de Dumbarton Oaks, où j'ai organisé il y a 2 ans le symposium de printemps sur le commerce et les marchés à Byzance du 5e au 15e siècle.
Vous avez déjà dit au fond une grande partie de vos activités, pas tout à fait de votre parcours. Je vais ajouter seulement que vous avez été directeur du département des monnaies et médailles antiques de la Bibliothèque nationale de France et qu'on vous doit le catalogue, je crois. C'est aussi un catalogue très important avec beaucoup de pièces sur la BNF.
La Bibliothèque nationale de France a bénéficié en 1930 du legs de la collection de monnaies byzantines et d'autres objets de Gustave Schlumberger, le grand byzantiniste du 19e, 20e siècle. Et j'en ai fait le catalogue en 1970 sous la direction de mon maître en numismatique, Philip Grierson, décédé récemment, qui était professeur à Cambridge. J'ai également, comme vous l'avez dit, dirigé le département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de 1988 à 1990.
Très bonne mémoire, en effet, c'est bien les dates que j'avais notées. Et je crois aussi que vous avez été professeur au Collège de France.
Ah non, ça c'est l'erreur à ne pas commettre.
Ah,
excusez-moi,
bon.
Parce que le Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance, fondé par Paul Lemerle et dirigé à sa suite par Gilbert Dagron pendant 12 ans, est abrité par le Collège de France. Mais bon, si j'ai Collège de France CNRS dans mon adresse, je ne suis pas et je n'ai jamais été professeur au Collège de France, mais seulement directeur de recherche au CNRS, même si j'ai dirigé ce centre de recherche byzantin également de 1997 à 2000.
Alors, Madame Morisson, votre livre qui vient de paraître, Le Monde byzantin, c'est le tome 3, L'Empire grec et ses voisins, il est paru dans une collection qui s'appelle Nouvelle Clio et qui est donc au PUF, je l'ai dit. Et cette collection, elle avait été fondée justement par un byzantiniste et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est pour nous une très belle occasion d'en parler. C'est Paul Lemerle, justement. Dites-nous quelques mots sur ce byzantiniste.
Paul Lemerle était un grand byzantiniste français, né en 1902, si je ne me trompe, décédé en 1989, qui a véritablement refondé la byzantinologie française en créant, nous étions dans les Trente Glorieuses, comme on dit, donc il y avait des crédits et il a eu à la fois la lucidité, le dynamisme nécessaire pour rassembler autour de lui toute une équipe de chercheurs grecs ou français et d'organiser la recherche dans toutes les directions des disciplines fondamentales comme la diplomatique pour la publication des archives byzantines des monastères du Mont Athos qui sont confiés à la France et dont nous avons déjà publié une quinzaine de volumes et la publication sera achevée d'ici une dizaine d'années. Donc il a développé cela. Il a également recruté des épigraphistes comme Denis Fessel, qui est l'un de nos meilleurs connaisseurs des inscriptions grecques tardives ou du début de l'Empire byzantin. Il a développé aussi la papyrologie byzantine avec Jean Gascou. Moi-même, il m'a orienté vers la numismatique. Monsieur Dagron, qui lui a succédé à la tête de ce centre et dans sa chaire du Collège de France, a poursuivi ses recherches dans de multiples directions, y compris l'application des méthodes anthropologiques à la documentation byzantine avec un grand succès et un grand rayonnement. Je ferai allusion notamment à son livre sur empereur et prêtre ou sur Décrire et peindre, tous les deux publiés chez Gallimard. Décrire et peindre est un essai remarquable sur l'interprétation de l'image à Byzance.
Et empereur et prêtre fait l'objet d'une émission sur Canal Académie avec Monsieur Dagron. J'aime beaucoup que vous disiez tous ces mots par rapport aux disciplines justement de la byzantinologie, parce que je crois qu'on ne sait pas, il y a aussi la céramologie, c'est-à-dire l'étude des céramiques.
Ah oui, j'oubliais de parler de l'archéologie. Monsieur Le Merle a eu deux grands élèves archéologues qui sont toujours actifs. Jean-Pierre Sodini, qui est membre de l'Académie des inscriptions, qui est un spécialiste de l'architecture monumentale de la haute époque byzantine, et Jean-Michel Spitzer, qui est maintenant professeur à l'université de Fribourg en Suisse et qui, après avoir travaillé et écrit une thèse sur Thessalonique byzantine et avoir notamment développé la céramologie byzantine qui, à l'époque, était très en retard par rapport à la céramologie de l'époque romaine. Par céramologie, soit dit entre parenthèses, nous entendons l'étude des innombrables tessons de céramique plus ou moins fragmentés qui sont trouvés sur les champs de fouilles, amphores ou vaisselle de table et qui sont un document de premier ordre pour l'étude justement des relations commerciales entre une région ou l'autre, dans la mesure où maintenant on peut identifier les lieux de production des amphores et par conséquent les courants qui les amènent, admettons, de la Palestine antique qui exportait le vin de Gaza qui était très renommé jusqu'en Gaule ou même jusqu'en Bretagne, c'est-à-dire dans l'Angleterre ou le pays de Galles actuel.
J'aime beaucoup vous entendre évoquer effectivement tous ces grands savants, je crois que c'est important. Paul Lemerle estimait que nous étions très en retard en byzantinologie pour les études par rapport à celles que l'on faisait au Moyen-Âge et à la Renaissance sur les courants les plus occidentaux. Est-ce que ce retard a été rattrapé, d'après vous ?
Oui, je pense que Paul Lemerle faisait allusion à notre retard en termes de publication de sources, publication d'instruments de travail, comme les célèbres Monumenta Germaniae Historica, qui sont une publication de toutes les chroniques de l'Occident médiéval depuis le VIe siècle jusqu'au XIIIe ou au-delà. Mais Paul Lemerle lui-même a beaucoup œuvré pour justement les publications de sources. Et tous les jeunes chercheurs qu'il a rassemblés autour de lui, il leur fixait comme but principal de maîtriser une discipline fondamentale et de publier des sources. Donc, pour reprendre mon propre exemple, il m'a confié la publication des monnaies byzantines de la Bibliothèque nationale, une collection d'environ 3000 monnaies, mais il a confié à Jacques Lefort, avec Nicolas Economidis d'Athènes, la publication des archives de l'Athos, en collaboration avec d'autres chercheurs. Il avait commencé à faire publier des inscriptions grecques par un certain nombre de chercheurs, puis par Denis Fessel. Donc il avait une vue d'ensemble de ses publications, mais il n'y a pas que les Français dans la recherche. Les éditions de textes ont fait des grands progrès avec la création d'une série intitulée « Corpus des sources de l'histoire byzantine », une série internationale où par exemple le père Fayet a publié les histoires de Pachymère, un auteur byzantin du XIIIe siècle en plusieurs volumes, mais nos collègues allemands, autrichiens, etc. ont publié d'autres textes. Les Autrichiens, en termes de géographie historique, ont publié une série très importante qui s'appelle la Tabula Imperii Byzantini, où par province, c'est un peu l'équivalent de la carte archéologique de la Gaule, on a des notices sur tous les sites avec des cartes très détailler ce qu'on y trouve, la bibliographie afférente, etc. On a publié aussi, tant en Allemagne qu'en Angleterre, des recueils prosopographiques avec des listes de noms très complètes. Donc, nous avons maintenant effectivement beaucoup avancé. Nous avons des instruments de travail, sans parler naturellement à l'époque de l'Internet, de la mise à disposition du thésaurus de la langue grecque sur Internet. Et ça, c'est une entreprise canadienne, je crois, qui comporte tous les textes grecs depuis l'Antiquité jusqu'au XVe siècle et dans laquelle vous pouvez faire des recherches absolument extraordinaires.
Alors, nous allons marquer, si vous le voulez bien, une courte pause avant d'entamer justement l'histoire de Byzance et de vraiment parler de ce volume numéro 3 sur le monde byzantin paru au PUF sous la direction d'Angélique Ilayou et Cécile Morisson. Trois volumes, je le disais, Madame Morisson. Donc le premier, Le Monde Byzantin, le tome 1, il va de 330, date de la fondation de Constantinople par Constantin, en 641. Que se passe-t-il en 641 ?
641 est une date que j'ai adoptée par commodité. C'est la mort de l'empereur Héraclius qui était arrivé sur le trône de Constantinople en 610 et qui s'était trouvé avoir face aussitôt à l'attaque de l'Empire perse. Les Perses ont failli prendre Constantinople avec l'aide des Avars qui était un peuple qui était arrivé sur la rive ouest de la mer Noire, mais les Perses n'ont pas réussi à traverser le Bosphore et à faire leur jonction avec les Avars, et la procession qui a conduit l'icône de la Vierge d'Egetria sur les remparts a, paraît-il, contribué beaucoup à délivrer Constantinople du siège. Donc Héraclius a en effet, par une campagne très astucieuse qui a consisté à contourner les Perses qui occupaient toute l'Asie mineure et avaient même conquis l'Égypte byzantine, Héraclius a réussi à les contourner par le nord, par le Caucase, avec l'aide d'alliés turcs, et a renversé l'empereur Khosroès à Ctésiphon, et ainsi a récupéré la vraie croix que les Perses avaient emportée de Jérusalem. Mais ce répit qu'il a procuré à l'Empire n'a pas duré longtemps, puisque en 636, les troupes byzantines ont été vaincues par les Arabes en Palestine à la bataille du Yarmouk. Et les Byzantins ne s'en sont pas trop préoccupés parce qu'on pensait toujours qu'on pourrait récupérer, mais là, pour une fois, l'installation s'est révélée permanente. Donc, au fond, la date de 641 était une coupure commode. C'était traité dans ce premier volume de la période 330-640. C'était, au fond, la fin de l'Antiquité tardive.
Alors, le deuxième volume, lui, Le monde byzantin, allait de 641 à 1204. 1204, c'est le sac de Constantinople par les croisés, de la quatrième croisade. On ne va peut-être pas détailler tout cela. Et ce troisième volume que vous publiez maintenant, lui, il va donc de 1204 à 1453, dont on sait que c'est la prise de Constantinople par les Turcs. Donc, ce troisième volume couvre le XIIIe, le XIVe et le XVe siècle. Combien de collaborateurs ont travaillé avec vous
alors,
sous votre direction ?
Dans chacun des volumes du monde byzantin, il y a une dizaine de collaborateurs. C'est le cas de ce volume 3. Dans les deux premiers, la plupart des collaborateurs sont des anciens élèves de Paul Lemerle ou bien des membres du centre byzantin du CNRS et du Collège de France. Dans le volume 3, intitulé « L'Empire grec et ses voisins », c'est-à-dire que l'Empire grec est eu alors à cette époque une peau de chagrin dont le territoire se réduit de plus en plus et les voisins, notamment les Slaves en Occident ou les Turcs en Orient, prennent de plus en plus d'importance. Donc, je me suis attachée avec Madame Layoud, la collaboration de collègues étrangers spécialistes des pays concernés comme la Serbie, la Bulgarie
oui.
Et l'Orient, l'Asie mineure turque. Et enfin, naturellement, puisque l'Empire est à ce moment-là occupé en partie par les Occidentaux qui, après la quatrième croisade, se sont partagés l'Empire et y ont gardé des établissements, des comptoirs que l'on peut appeler colonies, entre guillemets, ce volet du sujet a été traité par Michel Ballard, professeur à l'Université de Paris 4 et auteur dans la même série d'un volume sur les Latins en Orient.
Alors, Madame Maurice, on dit généralement que ces trois derniers siècles, vous venez de le dire, sont ceux de la décadence d'un État grec qui donc a été dépecé par les croisés d'abord, puis après a été pris en tenaille par les Turcs d'un côté et les Slaves de l'autre. C'est l'époque de l'impossible union entre les églises, c'est l'échec des conciles, notamment celui de Florence en 1439. C'est aussi celui, évidemment, du déclin de l'économie, de la peste de 1340. Et pourtant, dans votre livre, vous soulignez que c'est aussi, et paradoxalement, une période beaucoup plus complexe et finalement assez riche. Alors, sur quel plan ?
Alors, permettez-moi d'abord de revenir sur l'idée que Byzance est un carrefour. Je reviendrai au paradoxe après. À mon avis, Byzance est évidemment au carrefour géographique de l'Europe et de l'Asie, ça tombe sous le sens, mais elle est aussi au carrefour chronologique entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Au fond, c'est une persistance de l'Antiquité. Nos catégories Antiquité-Moyen-Âge qui s'appliquent plus ou moins bien à l'Occident sont plaquées sur Byzance, mais peut-être que l'Antiquité dure plus longtemps à Byzance. Enfin, elle garde les formes antiques, n'est-ce pas ? Il s'appelle empereur des Romains jusqu'à la chute de l'Empire. Vous avez l'inscription Basileus Romaion sur les monnaies jusqu'à la fin et les habitants se qualifient de Romains. Et elle est aussi un carrefour idéologique puisque elle est dans la tradition occidentale, elle est au contact des civilisations orientales et justement dans cette dernière période où vous soulignez ce paradoxe entre un État qui se délite, enfin en tout cas qui s'appauvrit même s'il garde une fiscalité et plus de pouvoir sur ces sujets qu'on ne le dit habituellement, mais en même temps, il y a cette floraison artistique à laquelle vous faites allusion et que les touristes qui se rendent en Serbie ou à Constantinople peuvent voir. À Constantinople, je citerai le monument bien connu que cette église décorée de mosaïques et de fresques remarquables du XIIIe siècle, la Kariedjami, monastère de Kora, qui fut fut restaurée par un premier ministre d'Andronic II, le lettré Théodore Metochit, et en Serbie, naturellement, toutes les églises royales décorées de fresques par des artistes souvent byzantins venus de Thessalonique ou d'ailleurs. Il y a aussi une grande floraison intellectuelle, puisque après 1204, on doit le dire malheureusement, les deux incendies et le sac auquel a été soumis Constantinople ont fait disparaître beaucoup de manuscrits. Ce choc a été très grand pour les Byzantins à beaucoup de points de vue, mais il a déclenché un effort de récupération, de recherche de ce qui pouvait être sauvé. Et au XIIIe et au XIVe siècle, on assiste à une floraison d'éditions, on peut bien dire d'éditions, mais nous ne sommes pas à l'époque de l'imprimerie encore, mais une grande activité de copies et de copies intelligentes qui comparent différents manuscrits pour arriver à la meilleure lecture et transmission du texte. On a des éditions dues à des érudits comme Maxime Planude qui font encore autorité pour le recueil de poèmes qu'on appelle l'anthologie grecque, qu'on appelle quelquefois aussi l'anthologie planudéenne quand on fait allusion à cette version, ou bien par exemple l'arithmétique de Diophante qui intéressait encore un mathématicien comme Fermat au XVIIe siècle, et Clyde, les 9 pièces alphabétiques de Ripide. Il faut reconnaître tout ce qu'on doit comme transmission de l'héritage antique à Byzance avec cette vague de récupération de manuscrits d'édition du XIIIe siècle et suivant, mais aussi la vague qui avait eu lieu au IXe siècle et dont M. Le Maire avait particulièrement traité dans son grand ouvrage sur le premier humanisme byzantin.
Donc c'est une période de grande floraison artistique, floraison intellectuelle, mais aussi de grande richesse économique finalement, malgré la pauvreté de l'État.
Oui, l'État est pauvre, il y a énormément de citoyens byzantins qui sont très pauvres aussi, mais nous avons des Grecs qui participent à l'essor du commerce engendré justement par cette rencontre entre l'Orient et l'Occident, l'émergence du commerce du Levant à l'époque des croisades. Les Italiens dont nous avons parlé tout à l'heure, les Vénitiens en 1204 ont obtenu toute une partie de l'Empire byzantin. Ils n'ont pas pris possession de tout ce à quoi ils s'étaient arrogé le droit, mais ils se sont assurés d'une part un comptoir à Constantinople dans l'Empire latin, mais ils ont surtout eu des positions dans le Péloponnèse, Moron, Codon, et ils ont aussi pris possession de la Crète. Tandis que en 1261, les Génois qui ont soutenu l'empereur Michel VIII, paléologue, contre les Vénitiens et l'empereur latin de Constantinople, ont obtenu un comptoir en face de Constantinople, à Péra, là où l'on voit toujours la tour de Galata, qui est une construction génoise, et ils ont obtenu l'accès à la mer Noire, où ils ont établi des comptoirs, notamment jusqu'en Crimée, ce qui leur permettait d'être en contact avec le commerce des steppes particulièrement actifs durant la paix mongole. L'ouverture des marchés a stimulé le commerce, c'est l'époque du développement économique de l'Occident, et évidemment, les Byzantins ont été privés du bénéfice de ce commerce, mais certains ont tiré leur épingle du jeu et on assiste à ce moment-là à l'émergence d'une classe moyenne jusque vers le milieu du XIVe siècle et plus tard à la reconversion de l'aristocratie qui perd ses possessions foncières avec l'avance des Turcs et qui se tourne vers les activités bancaires. Notamment, on en a des traces dans un merveilleux document qui est le livre de comptes d'un marchand vénitien actif à Constantinople entre 1436 et 1439, qui s'appelle Giacomo Badoer, et l'on voit qu'il est en relation avec toutes sortes d'hommes d'affaires, non seulement ses confrères vénitiens, mais aussi des Turcs, des Grecs de Constantinople qui sont banquiers, etc.
Une chose m'a surprise en lisant votre livre, qui est un livre un peu difficile à lire, mais tout de même vous arrivez à le mettre au niveau d'un public qui s'intéresse en tout cas à cette région et à cette partie de l'histoire. Vous dites que les Byzantins n'étaient pas tous entièrement hostiles aux Latins. Or pourtant, ils se disputaient, c'est la période de la querelle des églises, c'est-à-dire des États finalement.
Oui, le conflit entre les églises, c'est un étrangement, un phénomène d'étrangement, comme disait le père Congar, qui a des racines très anciennes. Bon, la lutte entre l'évêque de Rome et le patriarche de Constantinople, qui n'ont pas du tout la même conception de l'organisation de l'église. Et évidemment, les croisades n'ont rien arrangé. Mon amie et co-auteure, Madame Layou, avait organisé un colloque sur la quatrième croisade à Athènes, qu'elle avait ouvert par un papier, comme on dit, disant « Pourquoi Constantinople n'a-t-elle pas été prise avant 1204 ?» Bon, parce qu'il y avait déjà eu des frictions, mais il faut se représenter ce que veut dire l'arrivée, le passage dans l'Empire de dizaines ou centaines de milliers de soldats et de cavaliers qu'il faut nourrir pendant 3 mois.
Ils se nourrissent sur place.
Bon, et les rites sont très différents. Et donc, il y a une espèce d'incompatibilité d'humeur qui se dégage. Il y a une conception différente de l'image et du culte à lui rendre. Il y a le fait que les Byzantins, ça c'est un fait très important qu'on ne soulignera jamais assez, ils sont longtemps beaucoup plus instruits et lettrés. L'illettrisme à Byzance est beaucoup plus faible qu'en Occident. Il y a un enseignement élémentaire qui donne la connaissance du calcul et de la lecture, qui est beaucoup plus répandue qu'on ne croit, en tout cas beaucoup plus répandue qu'en Occident. Donc, les Byzantins ont longtemps eu une grande avance de ce point de vue sur l'Occident. 1204 a évidemment figé, donné naissance à une haine profonde de l'envahisseur latin, haine profonde qui est illustrée par le fameux mot du premier ministre du dernier empereur, plutôt le turban que la tiare. Bon, mais ça n'est pas effectivement, toute l'opinion n'est pas de ce côté-là, parce que le temps calme un peu les choses, mais surtout après 1204, il y a des contacts de plus en plus étroits entre les intellectuels, il y a un mouvement de traduction réciproque. Par exemple, les dominicains et les franciscains ont joué un grand rôle là-dedans. Rappelons que le Péloponnèse a été longtemps aux mains des Villehardouins et de dynasties occidentales. Et l'archevêque latin de Corinthe, Guillaume de Mourbec, qui était un flamand, a traduit Aristote et d'autres ouvrages en latin, tandis que de l'autre côté, Planude, dont je parlais tout à l'heure, a traduit Saint-Augustin et plus tard Démétrios Kidonès, qui a longtemps été aussi le bras droit de l'empereur. A traduit saint Thomas. Donc il y a tout un échange entre les intellectuels qui fait que certains sont plus favorables à l'union, certains sont même passés du côté du catholicisme. Et au moment du concile de Florence, il y a eu des échanges vraiment approfondis et bénéfique aux deux côtés, et où on voit les experts latins du concile de Florence se chercher avidement les manuscrits des anciens conciles, des pères de l'Église, donc étudier et venir discuter avec les Grecs en leur apportant les preuves à l'appui d'une façon presque moderne, si j'ose dire, cependant que les Grecs eux-mêmes sont séduits par la scolastique au moment même où la scolastique commence à être plutôt en perte de vitesse en Occident, mais qu'elle est un personnage très intéressant comme le Gennadios Scholarios, un intellectuel qui sera le premier patriarche de Constantinople sous la domination ottomane. Eh bien, il est farouchement anti-unioniste avant la chute de Constantinople, mais il discute en utilisant précisément le raisonnement scolastique tel qu'il l'a appris des Occidentaux.
Cécile Morrison, lors de la communication que vous avez donnée à l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 13 janvier 2012, vous avez conclu, si vous me permettez de vous citer, « Byzance réalisa une synthèse inégalée entre la Grèce, Rome et le christianisme, synthèse qui fait partie de l'histoire européenne ». Est-ce qu'à votre avis, on le souligne suffisamment ?
Je n'ai pas inventé cette conclusion, j'aurais même dû reconnaître ma dette à l'égard de Paul Valéry, qui je crois l'a exprimé en termes plus choisis, mais le fond reste le même. Byzance a laissé moins de monuments sans doute que l'Égypte, il n'y a que Sainte-Sophie qui puisse sans doute se comparer aux pyramides, et je ne comprends pas toujours bien pourquoi elle séduit moins les esprits français ou l'homme cultivé comme elle le faisait autrefois. Et dans les années 1900, je pense que des gens comme Schlumberger, Charles Dill, même à sa manière Victorien Sardou avec sa pièce sur Théodora, avaient mis Byzance à la mode. Je ne demande pas qu'on rejoue Théodora.
Pourquoi
dans un
pas.
Théâtre, pourquoi pas. Mais ce que j'aimerais, c'est que les efforts que nous faisons amènent le public à se pencher à nouveau sur cette histoire intermédiaire qui, au fond, est écrasée. Alors qu'elle a tout de même beaucoup de choses à nous apprendre par son adaptation, son sens de la résistance pendant 10 siècles.
Et son esthétique.
Et
aussi.
Son esthétique.
Merci Cécile Morrison de nous avoir justement fait aimer cette Byzance, parce que vous en parlez si bien. Donc votre ouvrage, Le monde byzantin, le tome 3 en tout cas, qui vient de paraître en ce début d'année 2012, L'Empire grec et ses voisins, 13e-15e siècle, c'est paru chez Nouvelle Clio aux éditions PUF. Merci et à bientôt peut-être pour une autre évocation de Byzance.
Merci beaucoup.